Père, merci pour cette heure à part dans notre vie. Fais-en une heure de paix, de recueillement, d'attention, de lumière. Une heure où, par ton esprit, nous apprenions à vivre dans la communion de Jésus le Christ. Je vous invite à vous lever. Notre secours est en Dieu, qui a créé le ciel et la terre et qui nous sauve par Jésus-Christ. Amen. Nous voici rassemblés en ton nom sur votre livret. Nous louons Dieu avec le psaume 95. Alors, excusez-moi. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur, comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Cantique 41-38, louange et gloire à ton nom.
Ton nom, alléluia, alléluia.
déplaçons. Nous plaçons notre vie sous le regard de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché qui nous sépare de toi et des autres. Nous voici devant toi avec, dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Nous restons assis pour chanter Jésus le Christ, lumière intérieure. De ta bouche qui m'élève à ta main qui me relève, il n'y a, Seigneur, qu'un pas que tu veux faire avec moi. Ce pas, chassé vers les autres, je le ferai, puisque c'est ta passion qui m'y invite. Le Seigneur nous a pardonnés, réjouissons-nous. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Tu consoles, tu pardonnes ». Dieu seul peut créer, mais il t'appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il t'appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il t'appartient d'être signe de Dieu pour ton frère, pour ta sœur. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il t'appartient de redonner confiance à ton prochain. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il t'appartient d'apprendre à aimer ton prochain. Dieu seul peut donner la paix, mais il t'appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il t'appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il t'appartient de sourire. Dieu seul est lumière, mais il t'appartient de la faire briller aux yeux des autres. Dieu seul peut faire un miracle, mais il t'appartient d'apporter les 5 pains et les 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous. Amen. Nous chantons « Transmets la nouvelle ». Déplaçons. Aujourd'hui, j'ai retenu 2 des lectures proposées par le lectionnaire. Ce sera le livre du Deutéronome au chapitre 18 et puis l'évangile de Marc au 1er chapitre. Avant d'écouter la lecture de la Bible, nous prions. Seigneur, apprends-nous le temps de l'attente. Parfois, c'est long et difficile de te comprendre, de t'entendre, de te prier. Apprends-nous l'espérance et l'impatience et la fougue de ton amour, de ta bénédiction. Apprends-nous l'écoute de ton silence, de ta patience, de ton souffle, de ta parole fragile. Apprends-nous à accueillir cette parole de toi, comme un voyageur venu de loin, comme un enfant curieux, comme un mendiant heureux. Amen.
Deutéronome 18, 15. C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. C'est bien là ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu à l'Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur, mon Dieu. Je ne veux plus regarder ce grand feu. Je ne veux pas mourir. Alors le Seigneur me dit: ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je leur mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai compte. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra.
Et dans Marc, chapitre 1, les versets 21 à 28. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus lui commanda sévèrement: tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur le secoua avec violence, et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.
Nous chantons « Écoute, entends la voix de Dieu ». Il est rare que je sois ainsi rapidement grillé, mais ce matin, je suis arrivé et une des personnes chargées de l'accueil, je ne dénoncerai pas, me dit: alors, vous allez prêcher sur l'autorité? Ben oui. Hein, les textes s'y prêtent. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Celui qui est envoyé par Dieu a autorité pour s'adresser au peuple. Alors, je mets peuple dans le sens que vous voulez. Et quand j'ai relu ce passage, ça a évoqué en moi un extrait d'un livre qui date. J'ai pas lu le livre, mais j'ai lu l'extrait. Et ça s'appelait « Le contre-évangile d'Anatole ». C'est l'histoire d'un prêtre qui s'appelle Anatole. Bon. Et c'est une lecture qui est volontairement critique. Alors, je vous cite de mémoire, parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais ce nommé Anatole refait tout l'évangile, mais de travers. Et l'extrait que j'avais concernait ce passage. En gros, Anatole ne guérit évidemment pas l'homme qui l'interrompt, fait un discours totalement convenu, et tout le monde est rassuré parce que rien ne change. L'inverse exact de l'évangile. Et l'autorité dont il est question ici, aussi bien que dans l'Évangile de Deutéronome d'ailleurs, que dans l'Évangile, n'est pas une autorité de statut, ce qu'on appelle le cléricalisme. Le cléricalisme existe encore dans nos églises, certes, mais dans la société en général. Alors ce ne sont pas des clercs religieux, enfin, rarement, mais des experts, une autorité technicienne. L'autorité dont il est question dans nos lectures de ce jour est moins celle de celui qui parle, du locuteur, que celle de la parole annoncée. Alors, je vous raconte ma vie, mais comme beaucoup de gens, je regarde plus du tout la télé, et je me suis rabattu sur les vidéos YouTube. Alors, vous savez comment ça commence, on commence sur un sujet qui vous intéresse, et puis on va sur un sujet un peu à côté, et puis finalement on se retrouve à regarder des vidéos dont a priori on se dit « je me fiche complètement de ce que ça raconte ». Et on se trouve parfois intéressé, et il m'est arrivé que je regarde avec intérêt et sympathie des vidéos de personnes avec lesquelles j'avais de fortes divergences de fond. Et à contrario, j'ai été excédé par des gens avec qui, a priori, j'étais d'accord. Deux courts exemples. J'ai regardé à une époque un militant, alors pour être correct, on va dire patriote. Pour être, comment dire, neutre, qui m'expliquait ses positions. Alors, je n'étais pas du tout d'accord, je suis patriotique, hein, je suis patriote aussi, mais pas du tout de ce style-là. Ça m'a permis de comprendre ce qu'il revendiquait. Ça ne m'a pas convaincu, mais ça m'a permis de le comprendre. Je sais plus où j'étais, voilà. À l'inverse, je suis sorti très énervé d'un visionnage de certains militants antiracistes par la pauvreté et la virulence du discours. Alors que pourtant, je vous rassure, je ne suis pas devenu raciste pour autant, hein, c'est pas l'idée. Mais j'ai été troublé, embêté. Deuxième exemple concerne la chasse. Alors, je ne suis pas chasseur, je n'ai jamais chassé, je ne chasserai jamais, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais je regarde avec intérêt quelqu'un qui défend la chasse et qui explique pourquoi il chasse, qu'est-ce que ça lui apporte, quel est le sens. C'est très intéressant. Et à l'inverse, j'entends des choses très, très agressives, alors je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, mais ceux que j'ai vus étaient très agressifs contre la chasse, et ben, ça a plutôt fait l'effet inverse en moi. On ne peut pas se réclamer de la bienveillance, du respect, en insultant les autres. Alors il m'arrive aussi, bien sûr, de suivre des gens avec lesquels je suis d'accord, Dieu merci. Mais pourquoi cette contradiction ? Parce que certains vitupèrent, appellent à la haine, condamnent sans appel, parce qu'ils représentent, du moins ils en sont persuadés, le bien, le progrès. Et si vous ne pensez pas comme eux, eh bien vous êtes forcément du mauvais côté, vous êtes forcément quelqu'un de mauvais. Leur cause, c'est le bien, ça ne se discute pas. Voilà, c'est comme ça, c'est posé, c'est le dogmatisme. Ça, c'est l'autorité d'autorité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ben, une vidéo qui commence comme ça, ben, je ne sais pas vous, mais moi je ne vais pas beaucoup plus loin que l'introduction. Y compris quand elle conforte mes propres a priori. Les autres expliquent, argumentent, démontrent, concèdent et reconnaissent la validité de certains arguments adversaires. Ils n'utilisent pas d'arguments d'autorité, mais parlent avec autorité. Donc, nous revenons à cette question, qu'est-ce que ça veut dire parler avec autorité ? Observons Jésus, c'est quand même notre... notre modèle. Jésus n'est pas un débatteur. Les rencontres qu'on nous décrit sont bien trop courtes et il donne rarement des explications. Ce n'est pas un militant. Il ne parle généralement que pour répondre aux questions posées. Ce n'est pas non plus un clerc, se retranchant derrière l'autorité d'un extrait de l'Écriture ou d'une autorité institutionnelle. Il ne fabrique aucune logique spécieuse pour embrouiller ses auditeurs. Il ne menace pas, il ne harcèle pas, il ne pourrit pas la vie des autres jusqu'à ce qu'ils changent d'avis et qu'ils soient d'accord avec lui. Il dit ce qu'il a à dire et laisse l'autre recevoir ou rejeter sa parole. C'est la raison pour laquelle on ignore ce que deviennent la plupart des interlocuteurs de Jésus. Parce que ce ne sont pas leurs réactions qui sont en jeu, mais les nôtres. Parler d'autorité, c'est laisser l'autre se déterminer après lui avoir fait comprendre la situation et les enjeux. C'est éclairer l'autre pour lui laisser en toute liberté et connaissance de cause décider de sa vie. En faisant taire l'esprit impur, Jésus refuse que l'on interprète ses paroles et ses actes en fonction d'un statut qu'il aurait, surtout si ce statut est confessé par un adversaire. Ses actes et ses paroles parlent d'eux-mêmes. Oui, mais Jésus, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas lui et rien ne m'autorise à parler d'autorité. Moïse annonce qu'un autre homme comme lui se lèvera. Alors évidemment, les chrétiens disent, bah oui, cet autre homme, c'est Jésus, bien sûr. Et je n'y vois aucune objection, bien évidemment. Mais est-ce le seul? Est-ce que cette parole n'annoncerait pas tout autant la venue de chaque prophète, de celui qui en tout temps vient rappeler la parole vivante de Dieu? Est-ce qu'Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie ou Osée, pour ne citer qu'eux, ne remplissent pas tout autant les conditions? Est-ce que les témoins postérieurs à Jésus et au temps biblique ne peuvent pas répondre à cette définition? Martin Luther King, n'ont-ils pas parlé avec autorité? N'ont-ils pas obligé, ce faisant, les gens à se positionner? Bien sûr, il est difficile, de tout temps et aujourd'hui particulièrement, de discerner le vrai prophète du faux. J'ai déjà, il y a quelques dimanches, effleuré le sujet. J'avais évoqué notamment cette plaie des réseaux sociaux, et donc de YouTube aussi, qu'est le biais de confirmation, favorisé par des algorithmes qui vous proposent du contenu similaire, en vous faisant, au bout d'un certain temps, tourner en rond et renforçant vos préjugés. Vous ne voyez que des vidéos qui vont dans votre sens. Bon, Dieu merci, pour ceux qui sont inquiets des intelligences artificielles, c'est pas au point. Si vous regardez une vidéo qui dénonce l'imposture des voyants et des astrologues, il y a toutes les chances que vous ayez une publicité pour un astrologue. Vous voyez, ils n'ont pas compris que l'opposition... Bref, bon. Donc, tant mieux, ça ne marche pas et c'est pas mal. Bon, à côté de ce critère, je vous en propose d'autres. Est-ce que la parole prêchée vise à plus de vie, à plus de compréhension entre les humains, entre les enfants de Dieu? Est-ce que cette parole est sincère? Y a-t-il cohérence entre la personne et les actes? Est-ce que celui ou celle qui parle avec autorité se met en danger? Ou au contraire? Cette personne essaye-t-elle de vous manipuler? Vous sort-elle, par exemple, un verset biblique comme argument d'autorité, un verset choisi avec soin et tiré de son contexte? N'oublions pas que dans les évangiles, le diable agit ainsi, qui tente de manipuler Jésus à grands coups de versets bibliques. La confiance générale en nos hommes et femmes politiques s'est effondrée, notamment, je pense, parce qu'ils parlent de façon dogmatique et autoritaire, et non avec cette autorité dont il est aujourd'hui question. Cette autorité est peut-être simplement une confiance, confiance en ce qui est dit et confiance en l'intelligence de l'auditeur, intelligence intellectuelle, bien sûr, mais spirituelle, morale et affective. Les experts en communication, les spin doctors et autres conseillers en image publique ont détruit la crédibilité de la parole. Plus personne n'assume ce qu'il dit, plus personne n'assume ses erreurs. Non, nous ne nous sommes pas trompés, nous avons encore moins menti. C'est vous qui avez mal compris ce qu'on voulait dire. Cette dissociation entre la parole et la réalité est devenue tellement patente que lorsqu'un message nous déplaît, on ne réfléchit pas au fond, mais on attaque le porteur du message. Alors, un exemple qui date un peu, je vous le confesse, mais qui est, à mon avis, totalement paradigmatique, totalement exemplaire, c'est le cas de Greta Thunberg. Qui a réellement discuté du fond des propos? Tout s'est focalisé, d'un côté comme de l'autre, hein, sur sa personne. On en a fait ou la représentante éveillée de la jeunesse et de l'avenir, ou une idiote manipulée. Elle n'était certainement ni l'une ni l'autre, en tout cas pas entièrement. Personnellement, on fait ce que je viens de faire. On cause plus du cas Thunberg que du message qu'elle est censée porter. Et lorsque le scandale éclate, on ne parle plus du cas, personnel du petit maladroit qui s'est fait prendre que du problème de fond. D'un côté comme d'un autre côté, vous me direz, on en a fait autant avec Jésus. On en a fait autant avec Martin Luther et Martin Luther King. On les a accusés à tort ou à raison de toutes sortes de vices, sans que ce soit en lien forcément avec le sujet. Mais les porteurs de leur message n'agissaient pas par ressentiment, par goût du pouvoir ou de la notoriété ou de la reconnaissance. C'était la soif de justice, le bonheur et le salut aussi bien de leurs partisans, de leurs protégés que de leurs adversaires. Martin Luther n'était certainement pas sans reproche, on peut penser à l'affaire de la guerre des paysans. Le comportement de Martin Luther King avec les femmes n'était, semble-t-il, pas irréprochable, loin de là. Non, mais dans leur combat, ils étaient cohérents, prêts à aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, cet extrême, n'était pas la mort des autres, mais la leur propre, à la suite de leur maître, Jésus le Christ. Il est toujours donc difficile de discerner le vrai du faux prophète. Et c'est pourtant nécessaire, c'est une question de vie ou de mort. Le vrai prophète, plutôt que des certitudes et des vérités, laisse dans son sillage des questions essentielles et des décisions à prendre, des conversions à faire ou à refuser. Chacun, chacune de nous est appelé à parler avec autorité s'il se sent appelé à le faire. Les individus appelés à être des prophètes en plein temps sont rares et ne se parent quasiment jamais de ce titre. Mais nous sommes tous invités à l'être à des moments précis, à des situations données. Nous le sentons, mais souvent nous n'osons pas parce que nous oublions que l'autorité que nous devons utiliser n'est pas la nôtre, mais elle nous est confiée. Dieu a promis de faire se lever des prophètes lorsque cela serait nécessaire. Mais avant de parler, il faut écouter. La mise en garde, vous l'avez entendu tout à l'heure, est sévère, mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ce prophète-là mourra. Alors, j'aime à croire qu'il mourra en tant que prophète. Mais celui qui ne prend pas la parole alors qu'il le doit, celui-là est déjà mort. En tant que prophète. Pour être un prophète vivant, il faut abandonner tout espoir de contraindre, toute certitude d'avoir raison, et oser faire confiance à la fidélité de Dieu, et vivre dans l'espérance du royaume. Amen. Nous chantons le psaume 24, les trois premières strophes, « La terre au Seigneur appartient ». Psaume 24. Nous restons debout pour confesser notre foi et je vous propose de dire ensemble le texte qui est dans, à la fin de votre recueil, le numéro 5, qui commence « Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret ». Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré les faiblesses et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les épreuves, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les humains. Chaque jour de ma vie, nous chantons. Prenez place. Nous offrons maintenant nos dons pour le service de l'Église et pour sa mission dans le monde. Merci Seigneur pour cette offrande que tu nous permets de faire. Accepte-la comme un signe de notre engagement à ton service. Amen. Quelques nouvelles, Pierre, si tu veux bien. Annonce, quelques annonces et nouvelles. J'en profite pendant que tu viens. Pour dire, si quelqu'un a des photos de la célébration œcuménique de mercredi, c'est volontiers que j'en récupère pour le prochain nouvelle.
Bonjour à chacun. Merci à ceux qui nous ont accueillis. Il y a Laurette et puis Nicolas et Yvon Serge aussi. Merci à Vincent pour cette prédication sur l'autorité et merci à vous tous d'être là. Merci Andrea pour l'orgue. Voilà. Cette semaine, il y a la chorale mardi à 19h15 et la prière mercredi à 18h. Et dimanche prochain, il y a deux cultes.
Non, pas dimanche.
Oui, le week-end prochain, il y a deux cultes. Il y en a un le samedi à 18h et puis un autre dimanche à 10h. Voilà, donc si vous ne pouvez pas venir le dimanche, n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté samedi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ?
Il y a M. Morin, là, qui est décédé.
Ah ben, vas-y, je t'en prie. Oui.
Nous avons accompagné cette semaine la famille d'Alain Morin, qui est décédé, donc voilà.
Et puis, il faudrait que ceux qui n'ont pas repris oui. Le journal.
Donc, je redis, parce que peut-être... Il y a des nouvelles encore à récupérer. N'hésitez pas. Alors, je le dis déjà maintenant aussi, si vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, je vous invite à vous inscrire de vous signaler auprès des responsables pour qu'on vous envoie nouvelles par mail. Ça fait quand même des économies substantielles à l'Église. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'est pas grave, on vous l'enverra par papier toujours. Hein, mais voilà. Donc, si... oui.
Pas envoyé par mail.
Il peut être téléchargé, oui, on peut envoyer un message comme quoi on peut le télécharger.
Voilà.
Oui, enfin, voilà, il faut être un peu à l'aise avec l'informatique. J'en doute pas que la plupart d'entre vous le sont. D'autres choses ? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous unir à la prière d'intercession. Notre monde, ô Dieu, devrait être un jardin. Mais il est un désert pour tant et tant de gens, désert de nourriture, désert d'affection, désert de travail, désert de spiritualité, désert d'humanité. Nous t'en prions, Ménage dans ce monde des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Sois toi-même la source d'eau vive qui les délivre de la sécheresse. Nous te remettons les enfants abandonnés, les femmes délaissées ou maltraitées, les hommes découragés et désœuvrés, les parents sans affection, les mourants sans consolation. Envoie-leur des messagers de ta présence et de ton réconfort. Et quand tu veux nous utiliser pour être à notre tour des anges de ton espérance et de ta miséricorde, fais-nous la grâce de nous renouveler la disponibilité, la compréhension et l'espérance sans lesquelles nous pourrions être des témoins de ton amour parmi les humains. Accorde-nous tout cela pour l'amour de Jésus, notre Maître, lui qui nous enseignait à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi, mon frère, toi, ma sœur, sais-tu que tu es l'ami de Dieu? Il te précède et t'accompagne. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est une espérance. Dans tes joies, il est sourire. Dans ton attente, il est désir. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est chemin. Dans tes nuits, il est le matin. Je vous invite à vous lever. La bénédiction du Dieu de Sarah et d'Abraham, la bénédiction du Fils de Marie, né de Marie, la bénédiction du Saint-Esprit qui veille sur vous, comme sur une mère sur ses enfants, soit avec vous tous. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider.
Bon dimanche à tous.